informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, fin de mission pour le commandant de la force Barkhane, reçu hier par le président du Faso, le général Marc Conruth, assure que les forces du Sahel sont capables aujourd'hui de s'opposer aux groupes armés terroristes. Et dans cette lutte contre les terroristes, il n'y a pas de solution militaire sans projet politique. C'est la conviction de Jean-Luc Mélenchon qui a animé hier une conférence publique à l'université de Ouagadougou où il s'est prononcé sur l'avenir en commun dans la francophonie. Après AstraZeneca, place à Johnson & Johnson, les États-Unis ont offert plus de 150 000 doses de ce vaccin au Burkina Faso. Et la réconciliation marche en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara reçoit la semaine prochaine, le 27 juillet précisément, Laurent Gbagbo. Et puis, que sait-on de la tentative d'assassinat du président de la transition au Mali? Y a-t-il eu une faille dans la sécurisation d'Assimi Goïta? Que risquent les coupables? Ce sont là des interrogations soumises à notre invité du jour, Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali. Merci d'écouter Radio Oméga pour vous informer. Le général Marc Conruth, commandant de la force anti-djihadiste Barkhane, en fin de mission, est allé faire ses adieux hier au président du Faso Roch Kabore. Reçu en audience, le général a souligné les moments difficiles qui ont nécessité d'une solidarité sans faille entre les différentes forces conjointes du G5 Sahel. Il s'exprime au micro de Charles Da.
Nous avons pu à ces occasions partager beaucoup de choses sur la situation sécuritaire au Sahel. Et donc, il était tout à fait légitime et normal que je vienne lui dire au revoir et lui faire, entre guillemets, le compte-rendu de la fin de ma mission et de souligner la très grande coopération qui a existé entre la force Barkhane et les forces armées burkinabées. Nous avons mené beaucoup d'opérations en commun, en fait. La plupart des opérations de Barkhane, elles ont été menées dans ce qu'on appelle, dans le cadre de ce que l'on appelle l'accompagnement au combat, c'est-à-dire qu'il y avait des unités de Barkhane, il y avait des unités sahéliennes, maliennes, nigériennes, tchadiennes, burkinabées ou forces conjointes du G5, qui ensemble conduisaient ces opérations. Et quand je dis ensemble, c'était vraiment ensemble, et j'ai été le témoin vraiment d'expériences vraiment qu'il faudrait d'ailleurs peut-être un peu plus, un peu mieux souligner, mais qui montrait comment l'intégration entre forces Barkhane et forces africaines était forte et a permis de produire des résultats sur les adversaires très importants.
Selon le général Marc Conruth, commandant de la force anti-djihadiste Barkhane, les forces du Sahel sont capables aujourd'hui de s'opposer aux groupes armés terroristes. Et dans cette lutte contre les terroristes, il n'y a pas de solution militaire sans projet politique. C'est ce que pense Jean-Luc Mélenchon, qui a animé hier une conférence publique à l'université de Ouagadougou, où il s'est prononcé sur l'avenir en commun dans la francophonie. À son dernier jour de visite au Burkina, devant des centaines d'étudiants et professeur, le président de la France insoumise a affirmé que la langue commune peut être utilisée pour changer et améliorer les conditions de vie des populations. Jean-Luc Mélenchon.
Je voulais vous dire tout cela et le dire ici. N'acceptez pas qu'un bien commun soit avili par ceux qui se le sont appropriés. La langue commune dont nous pouvons nous réclamer, celle qui nous met immédiatement en rapport les uns avec les autres, c'est un bien immense. Ne le méprisons pas. Utilisons-le. Retournons-le contre les maîtres. Au fond, j'appelle à cette définition que donnait de la langue commune Thomas Sankara. Lorsque lui, révolutionnaire, anti-impérialiste, anti-colonialiste, avec une forte pincée de méfiance pour la France, et même plus. Eh bien, lui disait la francophonie, il parlait de la francophonie. Peut-être un instrument de notre libération, puisque c'est à travers la langue commune que nous accédons à tel ou tel domaine de la culture. Et surtout, nous autres Français, nous autres insoumis, nous sommes devenus sankaristes, parce que nous avons compris ce que nous disait Sankara. Il nous l'a dit dans notre langue. Alors, de ce fait, nous l'avons convoqué en quelque sorte pour qu'il vienne participer à la mémoire collective qui va fonder notre culture. Et comme vous le savez, il a dit, il faut oser inventer le futur. Moi, c'est une parole qui, comme ça, paraît banale. Elle ne l'est pas. Beaucoup de gens croient que le futur, c'est une entité qui va finir par arriver. Mais nous autres, les universitaires, et en particulier ceux qu'ont lu Gaston Bachelard.
Jean-Luc Mélenchon a dans sa communication proposé la création d'une université de l'espace francophonie, une université qui va former des techniciens qui seront à mesure de prévenir des maladies et autres pandémies.
Il n'est pas normal que tous nos scientifiques, c'est-à-dire tous les scientifiques de la langue commune, soient pour être appréciés, publiés en anglais. Nous n'avons pas de revue scientifique internationale dans la langue commune, alors que nous disposons amplement des moyens de le faire et d'y abonner gratuitement tous nos intellectuels, tous nos professeurs, tous nos chercheurs, parce que ce sont des sommes dérisoires comparées à celles qu'on met en jeu pour les actions militaires et combien d'autres de même nature. Ce sont des sommes dérisoires, on peut le faire. La langue commune scientifique et technique nous permettra de maintenir tous, je dis bien tous, comme un bien commun, un avantage, une profondeur stratégique qui nous appartiendra en commun. Vous en ferez bien ce que vous voulez, et nous aussi d'ailleurs. Mais à la fin, au moins, pourrons-nous avoir cet espace qui nous appartient à tous. Voilà l'enthousiasme que je voudrais vous transmettre.
Des propos recueillis par Bruno Bayala. Lutte contre le coronavirus, les États-Unis ont offert plus de 150 000 doses du vaccin Johnson & Johnson au Burkina Faso. La remise de ce don a eu lieu hier à Ouagadougou au sein de la direction de la prévention par les vaccinations. Le ministre burkinabé de la Santé, le professeur Charles Manouedraogo, a réceptionné au total 151 200 doses du vaccin américain. Le 2 juin dernier, le Burkina a lancé la campagne de vaccination contre le COVID-19 avec le vaccin AstraZeneca. Selon le ministre, c'est plus de 33 124 personnes qui ont été vaccinées et parmi elles, on compte 13 192 agents de santé. L'arrivée du vaccin Johnson & Johnson permet aujourd'hui d'élargir la cible vaccinale à l'ensemble des personnes de plus de 18 ans, a affirmé le professeur Charlemagne Ouedraogo. Et le syndicat des médecins condamne les agissements de leur ministre de tutelle, Charlemagne Ouedraogo. La section centre-ouest du syndicat des médecins lui rappelle ses devoirs de confraternité. Il réclame l'arrêt du dénigrement des médecins et les velléités de liquidation de leurs outils de lutte constructif. Le CIMED demande au ministre de mieux s'approprier des problèmes de fond et de fédérer toutes les énergies pour résoudre les problèmes des centres de santé. Le syndicat demande en outre au Conseil national de l'Ordre des médecins de prendre ses responsabilités face aux écarts de conduite de son ancien responsable. Il souhaite par ailleurs l'unification des urgences au CHR de Kourougou et la réhabilitation du bloc opératoire du CMA de Réau. On rappelle le 11 juin dernier, le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, effectuait une sortie inopinée au CHR de Kourougou et au CMA de Réau. Ayant constaté l'absence de certains médecins à leur poste, Charlemagne Ouedraogo a dénoncé cette pratique et des sanctions ont été prises à l'endroit des médecins indélicats. Au Mali, au lendemain de la tentative d'assassinat du président de la transition, on en sait un peu plus sur l'agresseur d'Assimi Goïta. Des précisions avec Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali.
Ce que disent les enquêteurs, c'est que hier, peu après la tentative, il était difficile de faire parler l'agresseur parce que il n'était pas en possession de tous ses sens. Il avait consommé des substances. Il était drogué, selon les enquêteurs. Donc, il a été difficile de l'interroger plusieurs heures après les faits. Aujourd'hui, ce qui se dit, c'est qu'il y a d'autres interpellations. Le président lui-même a parlé de tentatives de déstabilisation. Mais est-ce que c'est une piste également djihadiste? Est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est un règlement de compte à l'intérieur de l'armée? Il y a plusieurs hypothèses, mais ce qui est sûr, ça montre quand même la fragilité de la transition. Les militaires contrôlent-ils tout? Effectivement, on est quand même dans une mosquée. Pourquoi les services de renseignement, les services de sécurité n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher ce genre d'acte? L'agresseur a visé le président de transition au cou. Donc, visiblement, c'était pour faire du mal. Il y a eu un problème de sécurité, défaillance sécuritaire, ça c'est évident. Quand vous faites deux coups d'État en quelques semaines, vous n'avez pas forcément que des amis.
Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali, est notre invité du jour. Vous l'entendrez plus longuement en fin d'édition. Et comme annoncé en titre, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara aura un tête-à-tête avec l'ancien président Laurent Gbagbo le 27 juillet prochain au palais de la présidence de la République à Abidjan, annoncé hier le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly à l'issue du Conseil des ministres. Ce sera donc la première rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait causé la mort de plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire selon l'ONU. Il s'agira également de leur premier rendez-vous depuis le retour de l'opposant historique le mois dernier.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Qu'est-ce qu'on en sait sur le ou les agresseurs du président de la transition au Mali, Assimi Goïta, victime d'une tentative d'assassinat au couteau le jour de la Tabaski? Est-ce un acte monté de toutes pièces ou inattendu? Que risquent les coupables? Des questions auxquelles répond Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali. Il a été joint au téléphone hier au lendemain de l'attaque par Asma Oudaou.
Serge Daniel, bonjour.
Bonjour.
Au lendemain de la tentative d'assassinat au couteau du président de la transition, Assimi Goïta, avez-vous des informations sur l'identité de l'agresseur et ses motivations?
Alors, on ne peut pas savoir parce que les enquêtes sont en cours. Ce que disent les enquêteurs, c'est que hier, peu après l'attentat, peu après la tentative, il était difficile de faire parler l'agresseur parce qu'il était, pas en possession de tous ses sens. Il avait consommé des substances, il était drogué selon les enquêteurs. Donc, il a été difficile de l'interroger après les faits, plusieurs heures après les faits. Aujourd'hui, ce qui se dit, c'est qu'il y a d'autres interpellations. On n'en sait pas un peu plus pour le moment.
Face à un tel acte, plusieurs hypothèses en vue. Soit le président était au courant et c'est une manœuvre politique, soit il n'en savait rien, effectivement. Quelle est la plus plausible, selon vous, des deux hypothèses?
Écoutez, moi, je ne me fie des hypothèses. Est-ce que le président était au courant? Je ne le crois pas, mais les enquêtes vont le démontrer. Parmi les hypothèses, il y a plusieurs hypothèses. Le président lui-même a parlé de tentatives de déstabilisation. Il a dit, vous savez, quand vous êtes leader, il y a toujours des gens qui veulent déstabiliser. Il a ensuite dit que c'était un acte isolé. Mais les enquêtes doivent pouvoir le prouver ou pas. Mais est-ce que c'est une piste également djihadiste? Est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est un règlement de compte à l'intérieur de l'armée? Il y a plusieurs hypothèses, mais voyez-vous qu'en tant que les enquêtes ne sont pas terminées, on ne peut pas faire de déduction.
Alors, selon certains médias au Burkina Faso, cette tentative est la preuve que Assimi Goïta n'est pas aussi populaire qu'il le pense, qu'il n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs et qu'il ne doit pas oublier que la priorité du Mali est et demeure la sécurité. Quels commentaires avez-vous à faire à ce propos?
C'est un peu hasardeux de dire cela. Moi, je suis pas un pro Assimi, je suis pas un anti. Mais vous savez, puisque vous êtes au Burkina, lorsque Thomas Sankara a été victime d'un attentat, est-ce que c'est parce qu'il n'était pas populaire? Non, on peut pas dire cela. C'est trop. Il faut pas aller vite en besogne. Je disais tout à l'heure que il y a plusieurs hypothèses. On attend la fin des enquêtes. Mais ce qui est sûr, ça montre quand même la fragilité de la transition. Les militaires contrôlent. Est-il tout? Effectivement, on est quand même dans une mosquée. Pourquoi les services de renseignement, les services de sécurité n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher ce genre d'acte? On peut se poser la question, surtout que l'homme qui était l'agresseur a visé le président de transition au cou. Donc, visiblement, c'était pour faire du mal. Il y a eu un problème de sécurité, défaillance sécuritaire, ça c'est évident, puisque quelqu'un a pu s'introduire au sein de la mosquée, la grande mosquée, jour de prière, jour de tabaski, et qui a tenté d'agresser le président.
Mais Serge Daniel, qui peut vouloir la peau du président de la transition au Mali?
Moi, je ne sais pas jouer dans les coris, madame. Peut-être vous savez jouer dans les coris. Les enquêtes sont en cours, comme je vous ai dit. Ils sont pas. Quand vous faites deux coups d'État en quelques semaines, vous n'avez pas forcément que des amis, madame.
Est-ce que dans l'histoire du Mali, c'est déjà arrivé quand on essaie de tuer un président?
À ma connaissance, non. On a arrêté Modibo Keïta alors qu'il revenait d'un voyage. Il y a eu le coup d'État parce qu'on a arrêté. On a arrêté d'autres présidents comme ça. Ibeka, vous savez, ils ont été arrêtés, mais ils n'avaient pas été assassinés puisqu'ils vivent toujours. À ma connaissance, non, c'est plutôt quelque chose de très rare. Moussa Traoré, en mars 91, le président, il n'avait pas été tué, il avait été plutôt également arrêté.
Que risque le ou les coupables? C'est quand même un président qui a été attaqué au couteau.
Il y a une enquête qui a été ouverte. Le tribunal de la commune 2 de Bamako a affirmé qu'il y avait une enquête qui était ouverte et que ça s'apparentait à une atteinte à la sûreté de l'État. Ça s'apparente à une tentative d'assassinat. Ici, la tentative d'assassinat, l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est quand même une peine, une perte lourde, au moins 20 ans de prison, selon les lois maliennes, madame.
Serge Daniel, merci.
C'est à moi.
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, notre invité Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali. Il se prononçait sur la tentative d'assassinat du président de la transition au Mali, Assimi Goïta. Et on annonce que le procureur de la commune 2 a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tienrebego. Merci de votre aimable attention.
Radio Omega, l'info en direct.
C'est déjà la rentrée sur Omega. Fondateur d'écoles et d'établissements maternels, primaires.